nous ne brandissons pas simplement un slogan. Nous, nous avons des arguments fondés pour dire que nous sommes opposés à ce que l'on recule l'âge légal de départ à la retraite.
Côté patronat, on est plutôt serein. Au travail, désormais, c'est ce que dit en substance Jean-Eudes Duménil, secrétaire général de la CPME. Ce qu'on souhaite...
Radio G, 101.5 FM. Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5, intitulé « Les bourreaux et victimes en mêlent leur récit »,
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, je vous ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé «
Assise près de l'incubateur ». Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Petit-Maugin est né en Lorraine en 1965. Après des études supérieures à Lyon, il entre chez Air France où il travaille encore aujourd'hui. Ce qu'il faut de nuit est son premier roman. Il a reçu pour ce livre le prix du meilleur premier roman de la rentrée littéraire 2020. Il fut couronné du prix Stanislas 2020. La maison d'édition, la manufacture de livres, éditeur indépendant. C'est l'histoire d'un père qui élève seul ses deux fils. C'est l'histoire ordinaire d'une famille aimante, d'un père qui veut le meilleur pour ses enfants, et l'on devine dès le début du livre que c'est le drame qui les guette, une descente aux enfers. Fus, l'aîné, un très bon garçon, Fus qui, après avoir suppléé son père au tractage pour le PS, tracte aujourd'hui pour le Front National. Un livre choc. Une histoire tellement contemporaine d'un basculement idéologique. Pourquoi ce dérapage? Pourquoi Fus fricoterait-il avec une bande de jeunes aux antipodes des valeurs qui lui ont été transmises? Aux antipodes certainement dans la finalité, mais pas dans le quotidien. Fus trouvera dans ses amis néofascistes une solidarité, une attention aux plus démunis, une remise en cause du système que les engagements de son père, CGT, Parti Socialiste, ne reflètent plus. Comme si la gauche avait abandonné le terrain et ceux qui l'habitent en l'occurrence, tous ces ouvriers en difficulté, pour certains déclassés, dans cette Lorraine post-industrie.
Ça érige l'œil du tigre, ça surtend profond des fibres, ça use, mais tu restes libre.
Perfide chez les bourgeois, chez qui ça ne se dit pas, même si elle est souterraine. C'est tordu, vulgaire et lourd, c'est laid, obsédant et blême, mais c'est la vérité même. C'est la sœur de la révolte, la mère des révolutions, c'est le couteau de Danton.
m'avait découvert la maladie, elle m'en avait reparlé de l'avenir des enfants, mais c'était au début. Je n'y croyais pas à ce cancer, elle non plus, je crois. Je l'avais laissé dire sans prêter attention. Puis elle s'était effondrée assez rapidement dans la souffrance et elle n'était plus revenue dessus. Les dernières semaines, quand elle savait que c'était fini, elle n'avait pas fait le tour de sa vie et s'était abstenue de tout conseil. Elle s'était contentée de nous regarder le peu de temps où elle était consciente, juste nous observer, sans même nous sourire. Elle ne m'avait rien fait promettre. Elle nous avait laissés. Elle s'était démenée pendant 3 ans avec son cancer, sans jamais dire qu'elle allait s'en sortir. La maman n'était pas bravache. Une fois, je lui ai dit « Tu vas le faire pour les enfants ?»« Je vais déjà le faire pour moi », qu'elle m'avait répondu. Mais je crois qu'elle énervait les médecins, pas assez motivée, pas assez de gueule en tout cas. Il attendait qu'elle se rebiffe, qu'elle dise comme les autres, qu'elle allait lui pourrir la vie à ce cancer, le rentrer dans l'œuf. Mais elle ne le disait pas. Un truc de film, un truc pour les autres, comme les dernières recommandations. Trop pour elle. C'était pas la vraie vie. Pas comme ça que sa vie était faite, en tout cas. Alors, personne à son enterrement ne m'avait parlé de son courage. Pourtant, 3 ans d'hôpital, de chimio, 3 ans de rayons. Les gens m'avaient parlé de moi, des enfants, de ce qu'on allait faire maintenant, presque pas d'elle. On aurait dit qu'il lui en voulait un peu de sa résignation, d'avoir donné une si piètre image. Le professeur avait juste haussé les épaules quand je lui avais demandé comment s'étaient passées les dernières heures. Comme les jours d'avant, pas plus, pas moins. Vous savez, monsieur, votre femme ne s'est jamais réellement révoltée contre sa maladie. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je ne vous dis pas d'ailleurs que cela aurait changé quelque chose. Nul ne peut savoir, à vrai dire.
Puis est arrivé le moment où Fuss avait voulu partir avec ses copains. D'abord Montpellier, et l'année d'après l'Espagne. Je ne les aimais pas trop, ces copains. Je ne les connaissais pas vraiment. Ils ne passaient jamais à la maison. Mais, pour ce que j'en voyais, ils ne me plaisaient pas. Ils n'étaient pas du coin. Ils venaient au village en moto, des petites cylindrées qui devaient coûter les yeux de la tête. Je ne savais pas où ils trouvaient cet argent. Leur tenue non plus ne me plaisait pas. Je n'avais jamais trop aimé les treillis, ni les cheveux coupés à la para. Mais je n'avais pas osé le dire à Fuss. Et quand ils étaient partis en Espagne, je m'étais débrouillé pour lui donner une bonne somme d'argent pour pas qu'il ait honte et qu'ils doivent vivre sur leur dos. Après la vacance, à son entrée en terminale, Fuss s'était mis à les voir tous les jours. Pas de filles aux abords. Ses résultats scolaires s'étaient presque améliorés. Il était depuis la première dans une section technique et les notes qu'il me montrait n'étaient pas vilaines. Presque à regretter qu'il n'ait pas continué dans les grandes classes. Ce qui m'inquiétait, c'est qu'il nous parlait de moins en moins. Il n'y avait que le samedi matin, quand on allait faire les courses, qu'on se disait encore quelques mots. Le dimanche, c'était foot et télé. La semaine, il filait dans sa chambre dès qu'il le pouvait. Même avec son frère, alors qu'ils s'adoraient, ils passaient moins de temps ensemble. J'entendais plus rarement les « Gros, on fait une partie de magique ? Gros, tu viens taper les coups francs ?» Julou ne semblait pas s'en préoccuper. Il continuait à pousser en mode nounours. Et quand je lui demandais s'il n'avait rien remarqué chez son frère, il me répondait « Non, il est toujours aussi marrant. » Justement, je le trouvais moins drôle, mon Fuss. Il n'était pas pareil. Même pendant la fin de la moment, il était plus lumineux que ça. Je l'observais, il était sombre dans tous ses gestes, et le dimanche, au foot, il devenait dur, vicieux dans ses interventions. Souvent, il rentrait quand nous étions déjà à table avec Gilou, et avait l'air totalement absent. « Tu rentres du lycée à 7 heures ?»« Non, j'étais avec les potes. Gros, tu peux me passer le plat, s'il te plaît ? Gilot ne se contentait pas de lui passer le plat. Il se levait à le servir et lui dressait une belle assiette avec tout ce qu'il faut dedans, comme l'aurait fait un garçon au restaurant. Puis, elle allait la chauffer au micro-ondes. Il avait toujours fait cela, Gilou. Ça ne semblait pas lui poser le moindre problème de servir son frère. Au contraire. Depuis toujours, j'ai le souvenir de Gilou rayonnant dès qu'il verrait rentrer son frère. Un miracle quotidien. Fût-ce à peine débarrassé de sa veste, Gilou lui racontait toute sa journée dans le détail. Il l'avait fait jusqu'à ses 14 ans. Depuis, il était moins volubile, mais le plaisir de voir le frangin restait le même. Fus avait toujours été plus distant, mais faisait l'effort de lui dire 2-3 mots en retour. Bien sûr, les deux s'étaient chicorés, et pas qu'une fois, mais ils formaient une sacrée belle paire. La vie ne m'avait pas trop fait de cadeaux, mais j'avais 2 gaillards qui s'aimaient bien. Quoi qu'il arrive, l'un serait toujours là pour l'autre. Après son bac, Fus était entré à l'UT. Je ne savais pas si le maman aurait été contente. C'était bien l'UT, tout le monde me le disait, mais est-ce que ça faisait des ingénieurs? Pas sûr. Il faudra encore cravacher. J'ai honte de le dire, mais quand il avait été refusé à Metz, ça avait été un vrai soulagement. Je n'étais pas prêt à le voir déjà partir. Il était bien avec nous. Mais s'il ne nous parlait plus beaucoup, j'avais besoin de lui. Le face-à-face avec Gilou m'avait toujours fait peur. Je ne me sentais pas à la hauteur. Tant pis si l'UT du coin était moins huppé.
Ce soir-là, il n'était pas rentré si tard de l'UT. Il était là pour le repas. Il avait mis la table et fait réchauffer les galettes de maïs. C'était leur nouvelle habitude avec son frère. Il ne mangeait plus de pain, mais des galettes de maïs qu'il achetait par paquet de 20 et qu'il passait au micro-ondes pour bien les ramollir. « C'est quoi, Fus, ton écharpe ?» lui avait demandé Gilou. « Gros, c'est pas une écharpe, c'est un bandana. » Je l'avais regardé à mon tour, ce bandana, et j'étais consternée. « Fus, c'est quoi, cette croix ?»« Bah, j'en sais rien, c'est juste un bandana prêté par un pote. »« Fus, si tu ne le sais pas, je vais te le dire, c'est une croix celtique. » Une croix celtique, bon Dieu, Fus, tu portes des trucs de facho maintenant? Bah, calme-toi, c'est un bandana d'ultra, pas de facho. Ça vient de la Lazio, de leur virage nord. C'est leur truc de reconnaissance. Sébastien qui les collectionne. Gilou avait regardé notre échange sans rien dire. Est-ce qu'il pensait comme moi? Est-ce que lui aussi s'était dit que son frère mamaillait avec de drôles de gars? Fus avait fini par ranger le foulard dans sa poche. On avait continué le repas, tranquille. « Demain, après le boulot, je vais à la section. Ne m'attendez pas pour manger. » Il m'avait dit « T'inquiète, pas de souci. » Ça faisait longtemps qu'il ne m'y avait pas accompagné. Quand ils étaient plus petits, avant que la maman ne tombe malade, on allait tracter ensemble. On partait à vélo, un bulletin dans chaque boîte à lettres. S'il y a plusieurs noms, vous en mettez autant que de noms. Si la boîte était déjà bourrée de papier, vous ne mettez rien. Pas la peine que ça tombe par terre et qu'on dise qu'au Parti Socialiste, ce sont des dégueulasses. Alors les deux prenaient un côté de la route pendant que je m'occupais de l'autre. Ils se relayaient, faisaient chacun à leur tour une boîte et appuyaient sur les manivelles pour avoir fini la rue avant moi. Je les entendais rire ou râler quand le tract ne rentrait pas bien dans la fente. Quand la maman a commencé à être alitée et que j'étais crevée des navettes entre les différents docteurs, il la faisait même tout seul, comme des grands, la distribution.
C'est le Bernard de la section qui m'avait alertée. « D'Ivoire, t'as 5 minutes, il faut que je te dise quelque chose. Tu sais qu'on a tourné hier avec les camarades près du dépôt. On collait pour le 1er mai. » Quand on a vu la bande des pieds nickelés du Front National au bout des voies. Ils collaient eux aussi pour leur Jeanne d'Arc, sous le pont et sur tout le mur qui va jusqu'à l'aiguillage. On s'est branché à distance. On était le même petit nombre, pas mieux, pas moins outillés qu'eux. Personne n'avait vraiment envie d'aller à la baston. Le Mimille et l'Ominetti étaient déjà rentrés. On n'était pas les plus virulents. Et comme en face, ils n'avaient pas l'air plus décidés, on s'est contenté de s'insulter puis d'attendre. On est repassé 2 heures après pour recoller sur leurs affiches et j'imagine qu'ils nous ont salopé le travail depuis. C'est la vie, que veux-tu ? Je n'avais pas vu où ils voulaient en venir. Ça faisait longtemps que je ne sortais plus collée et ces histoires me passaient maintenant au-dessus de la tête. C'était un jeu à qui aurait le dernier mot. Chacun avait ses bastions, des endroits qui ne supportaient que ses couleurs. Il fallait les voir certains matins, contents de leur coup, quand ils avaient envahi d'affiches les terres de l'autre. Ce qui me chiffonne, avait continué le Bernard, c'est que je crois avoir aperçu le fus qui zonnait avec eux. Je n'en mettrais pas ma main à couper. Mais il y avait ce grand qui avait la même dégaine que ton fils. Les copains n'ont rien remarqué, mais je suis à peu près sûre. Un blouson avec un grand apache sur le dos, c'est lui ? Peut-être. Enfin non, je ne crois pas. C'est tout ce que j'avais balbutié. Le Bernard avait simplement continué. « Te bile pas, c'est des conneries de jeunes. Faudrait juste pas qu'ils tombent mal. Tu les connais chez nous. Il y en a des teigneux qui n'hésiteraient pas à cogner, même sur ton fils. » Et en me donnant une grosse bourrade, si c'est pas malheureux de retourner comme ça la tête des gosses qu'il avait conclus. Fus avait 22 ans, ce n'était plus un gosse. Que fabriquait-il avec ses fachos ? Quand je lui avais demandé le soir, il n'en savait rien. Il accompagnait juste des potes, c'était la première fois qu'il allait coller. Il voulait voir ce que ça faisait. J'avais eu beau penser à cette soirée, ruminer ce que j'allais faire, le gifler, aller à la bagarre avec lui. Il n'y eut finalement rien, rien du tout, rien de ce que j'avais pu imaginer. Je n'étais plus d'attaque pour me le coltiner. Ce soir-là, je m'étais sentie infiniment lâche, très vieux aussi. Je me souviens d'avoir longuement regardé le jardin. Il était vraiment beau, les arbres fruitiers perlaient tout ce qu'ils pouvaient de la dégelée qu'ils venaient de se prendre, et une pluie d'encre s'annonçait de nouveau dans la demi-heure. J'aurais dû lui rentrer dedans. Je m'en étais tenue à une discussion, pas même une engueulade. « Comment as-tu pu faire ça ?» je lui avais demandé. Il s'était contenté de me dire « Ce n'est pas ce que tu crois. » Qu'est-ce que je pouvais bien croire ? Puis il avait enchaîné. « Ça fait combien de temps que tu ne colles plus ? Que tu fais juste des petits goûters de section ?» Je lui avais demandé si ça ne le gênait pas de traîner avec des racistes. « Ils ne sont pas racistes, c'était avant. » En tout cas, mes potes ne sont pas racistes. Pas plus que toi et moi. Non, pas racistes. Juste contre les émigrés, j'avais ajouté. Contre l'immigration, pas. Pas contre les immigrés. Ceux qui sont là ne les dérangent pas tant qu'ils ne font pas le caillon. Des gens normaux, en définitive. Et puis, comme s'il voulait achever de me convaincre, il avait dit de nouveau, « C'est des bons gars, pas comme tu crois. » Il s'était assis en bout de table. Il attendait peut-être que je le rejoigne et que j'aille d'abord nous prendre 2 canettes, qu'on se les descende à la coule. J'étais restée dans le coin près de la fenêtre, dans son dos, surveiller si Gilou ne rentrait pas. Peur qu'il nous trouve comme ça. Fus avait continué de parler doucement. « Crois-moi, les mecs sont aux côtés des ouvriers. Il y a 20 ans, vous auriez été ensemble. Ils s'en fichent pas mal de ce qui se dit à Paris, eux. C'est notre coin qui les intéresse. » Ils n'ont pas envie de le laisser crever. Ils se bougent, ils en ont marre des conneries de l'Europe. Ils reçoivent de la thune de Paris qu'ils redistribuent dans le coin. Tiens, samedi dernier, ils ont rééquipé de fond en comble la maison d'un petit vieux qui venait de se faire cambrioler. Que cela te plaise ou pas, les gens ne crachent pas dessus. Voilà comment on justifiait en moins de 10 minutes de traîner avec l'extrême droite. Comment on se résignait à ce que son fils soit de l'autre côté ? Pas chez les Macron, mais chez les pires salauds, les potes des négationnistes, des ordures. Fus était calme, presque content que cette explication arrive. Il assumait. Un vrai témoin de Jéhovah, perfusé de conneries, avec de nouvelles certitudes qui restaient aimables. J'avais honte. Désormais, on allait devoir vivre avec ça. C'était ce qui me gênait le plus. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on veuille, c'était fait. Mon fils avait fricoté avec des fachos, et d'après ce que j'en avais compris, il y prenait plaisir. On était dans un sacré chantier. la maman pouvait être fière de moi. Fus avait fini par se lever et dire « Cela ne change rien ».
Une fois, un gars de leur bande était venu sonner à la porte. C'est moi qui lui ai ouvert. Une bonne tête, habillée normalement. Bien polie, je l'avais fait entrer. On s'était dit quelques mots, puis c'était dur de faire autrement. Je crois même qu'on s'était serré la main, machinalement. Il m'avait complimenté sur le jardin et dit que c'était le passe-temps de ses parents qui leur prêtaient parfois la main. Qu'est-ce que je pouvais faire ? Maintenant que je l'avais laissé entrer, maintenant qu'on avait un peu parlé, je n'allais pas m'engueuler avec lui. Je n'allais pas me sauver non plus. Fus avait mis du temps pour sortir de sa chambre. Je l'avais regardé encore. Un gars sain, sportif, au regard bien droit, franc du collier. Pas méchant pour un sou. Le type de gars qu'on s'était mille fois comme copain à ses enfants. Fus avait enfin rapiqué. Tous les deux m'avaient longuement salué, deux bons potes. Ils étaient partis, bras dessus, bras dessous, et ils étaient montés dans une petite camionnette nickel, sans doute de location. Pendant toute la journée, j'avais repensé à ce gamin. J'avais essayé de l'imaginer le soir courir après des Arabes et se mettre à les tabasser. Mais ça ne prenait pas, pas plus que mon fils. Ils devaient pourtant bien faire des choses ensemble, des choses de fachos. Sinon, à quoi bon ? J'avais eu beau m'escrimer, rien ne tenait. Tout glissait sur sa gueule d'ange. Quand Fus était entré ce soir-là, contrairement à son habitude, il n'était pas monté dans sa chambre et était venu me rejoindre dans la cuisine. C'était Hugo qui m'a dit. Ses parents habitent une des maisons près du ruisseau Bel Air. Comme si ça devait me rassurer. Des petites maisons d'ouvriers bien retapées pour la plupart, pas très loin de la gare. Je n'y connaissais plus personne depuis que l'Armand avait revendu la sienne à un couple de jeunes infirmiers. Ils sont sympas, tu devrais voir leur jardin. Je sais, ton pote m'a déjà dit. Je l'avais coupé. Fus était contenté de dire « Ah bon, c'est bien ». Je m'étais acharné à râper les carottes. Ça avait gardé la tête dans le saladier. Entre envie de continuer à discuter, d'en savoir plus sur ce fameux Hugo, sur ce qu'ils avaient fait cet après-midi et garder au sec la gueule que je lui imposais depuis plusieurs semaines. Il était resté à ma côté assez longtemps sans rien dire. Raide comme la justice. Il avait attendu mon ouverture qui n'était jamais venue ce soir-là. Alors il s'était mis à vider le lave-vaisselle. Il avait râlé qu'il ne lavait plus rien, ce qui n'était pas tout à fait faux. Mais je rechignais à cette dépense depuis des mois. Et après avoir relavé à la main ce qui devait être lavé, consciencieusement essuyé, ce qui n'était pas bien essoré, et rangé le tout proprement, il tenait enfin une bonne raison d'abréger notre séance et de quitter la cuisine. De mon côté, j'avais le sentiment d'en avoir fait beaucoup. Et je trouvais déjà beau qu'on vive ensemble sans se taper dessus.
On arrivait à vivre comme cela en sachant tant bien que mal. Les deux durant la semaine, les quatre pendant le week-end. La semaine, Fus et moi, on était en apnée. On s'en parlait sans se parler. On posait les pieds là où on pouvait encore les poser, en respectant les quelques points qu'il fallait pour que la chose reste vivable. Comme au boulot dans les mauvaises années, bonjour, bonsoir, les consignes nécessaires au bon fonctionnement de la maison. Quand tu pars, dépose la clé au Jackie. Il va venir récupérer ses outils demain. Je ferai les courses ce soir. Mais plus jamais. Y a quelque chose qui te ferait plaisir ? Les « ne m'attends pas ce soir » de Fus me soulageaient et permettaient de gagner un jour d'ici le week-end, même si je me retrouvais un peu con, l'assiette calée sur les genoux, seule devant la télé. On se serait cru au théâtre. On gardait nos distances, on mesurait nos entrées et nos sorties, histoire de ne jamais nous retrouver coincés dans un même couloir. C'était fini le temps où on se serrait autour du petit lavabo de la salle de bain pour se laver les dents. C'était fini le temps où on bâclait la vaisselle en trois coulées gros, l'un sur l'autre, en n'arrêtant pas de se gêner, de se toucher, de se bousculer gentiment. Désormais, nos mouvements étaient empesés, pleins de précautions. Il fallait laisser une bonne marge. Si possible, laisser l'autre dégager les lieux avant d'y entrer. comme si on portait un scaphandre d'une tonne et qu'on marchait sur une putain de zone radioactive. Le tribunal était rempli. La presse avait bien joué son rôle. L'avocat n'avait pas réussi à dépayser le procès. C'était donc à Metz que ça se passait.
L'acte d'accusation était clair. Il s'agissait d'un assassinat. Le juge d'instruction avait retenu la préméditation. Et malgré tous les efforts de l'avocat de Fuss pour revenir là-dessus au cours d'instruction, c'était sur ses chefs que le procès s'était engagé. Pour un homicide, la peine, c'était du 10, 20 ans maximum. Mais il aurait fallu pour ça que les deux se soient tombés dessus par hasard et qu'ils se soient mis sur la gueule jusqu'à ce que l'autre succombe sous les coups. Quand on surveillait le gars depuis plusieurs jours, quand on attendait le moment où il était seul pour débarquer avec une putain de barre de fer, qu'on le frappait par derrière à plusieurs reprises à lui en démonter la moitié du crâne, ça s'appelait un assassinat. Et on parlait alors de perpétuité. En disant cela, on aurait pu me croire cynique. Il n'en était rien. Quand ils avaient lu l'acte, chaque phrase avait résonné au plus profond de mes os. On me l'aurait marqué au fer qu'il n'aurait pas été plus présent. J'aurais entendu chacun des mots, chacune des intonations, et puis ce silence, cet immense silence qui s'en était suivi, comme s'il avait pris tout le monde par surprise, comme si chacun ignorait jusqu'à cette seconde pourquoi il était là. J'avais vite perdu le fil lors des premiers jours. Je ne voyais pas ce qu'on cherchait. Cette quête du détail de la petite bête me semblait vaine et artificielle. Chacun affairé à justifier son rôle et son salaire. Les médecins étaient les pires. Je n'en pouvais plus de leur prudence. Ils ne pouvaient pas certifier à coup sûr que la mort provenait des coups. Mon Dieu, que leur fallait-il ? Quand ils avaient projeté les photos du crâne du type, on voyait bien que ça n'était pas normal, qu'on pouvait difficilement continuer à vivre avec la moitié de la tête qui ressemblait à un pamplemousse épluché. Mais le pire, c'était ceux convoqués par l'avocat de Fuss, qui n'arrivait pas à exprimer ce que Fuss avait morflé, qui n'arrivait pas à faire le lien entre la DG qu'il avait prise et celle qu'il a mise en retour plusieurs semaines après. L'avocat de Fuss avait beau se démener, il restait vague. De toute façon, est-ce que ça excusait quoi que ce soit ? Je n'en étais pas convaincu. Il ne s'agit pas d'excuser, mais de mettre en exergue le champ des circonstances atténuantes, m'avait expliqué l'avocat. Lesquelles circonstances peuvent significativement réduire la peine ? Je me fichais de la peine qu'allait ramasser Fuss. Je n'en étais pas à discuter le nombre des années de cabane. Il y en aura un paquet, un sacré paquet, et je savais que je serais crevé avant qu'il ne sorte un jour. Il ne méritait pas mieux. Au soir du deuxième jour, l'avocat avait tenu à me voir pour préparer mon témoignage du lendemain. Dès le début, il ne me sentait pas, je le savais. Je n'avais pas les bonnes réactions. Je ne l'avais pas suivi dans son combat pour rayer toute préméditation. Je ne l'avais pas trop aidé à démontrer les séquelles de Fuss, dire comment sa vie après son agression a été vide de tout, comment cet énorme choc avait pu le détraquer suffisamment pour qu'il aille se venger. Un père fait cela pour son fils, qui m'avait dit. Peut-être, pour ma part, j'étais prêt à dire ce qui était. Que Fuss avait été, jusqu'à la fin de son adolescence, le plus adorable des enfants. Un amour d'enfant, comme on en sait à tous les parents. J'étais prêt à dire qu'il m'accompagnait à l'hôpital sans jamais rechigner. J'étais prêt à dire ça, car c'était la vérité, ta simple vérité. Mais quand l'avocat voulait que je parle de sa mère, dire combien son décès a pu le fragiliser, je n'en savais rien. Et c'était beaucoup demandé de mettre la pauvre maman dans cette histoire. Je ne savais pas si elle était d'accord, à un moment, de servir d'excuse à son fils assassin. Depuis le début, j'avais appréhendé le moment où j'allais être appelé. Et j'avais commencé à suer de partout. Et plus j'y pensais, plus ça dégoulinait. Affolé, j'allais chercher des mouchoirs ou quoi que ce soit d'autre. Mais je n'en l'avais pas. La chemise bleu clair s'était trempée en quelques secondes. J'avais beau faire, j'avais beau tirer ma veste dans tous les sens, pour cacher les flaques noires de transpiration. J'avais beau me rencogner, on ne voyait plus que ça. Heureusement, il y avait encore un peu de temps avant que je voie me lever, et au bout d'un long effort, en bloquant ma respiration, en bloquant tout ce que je pouvais, en me fixant sur le premier assesseur, j'avais réussi à me calmer. Le lendemain, j'avais découvert Christina, la petite amie de Fus. C'était une drôle de fille. Elle avait choisi de venir tout habillée de noir. Elle portait un chemisier de crêpe d'un autre âge. À l'amorce des manches et du col, on devinait des tatouages. Beaucoup de tatouages. Pour autant, avec ses lunettes et sa queue de cheval, elle avait un air d'élève sage. Ça me faisait tout drôle de découvrir enfin cette fille. Je n'avais pu m'empêcher de la regarder comme un père observe sa future bru le premier jour. Je l'avais consciencieusement détaillée et je m'étais demandé à plusieurs reprises si elle me plaisait, si je la voyais avec mon fus, comme si tout ça avait le moindre sens à cette heure, comme s'ils avaient la moindre chance de vivre un jour ensemble. Elle était issue d'une famille de Polacs qui s'était installée en Moselle entre les deux guerres. Elle militait au Front National depuis ses 14 ans, comme papa. C'était toujours fascinant de voir comment les gens pouvaient se sentir aussi vite partie prenante d'une histoire, plus français que les Français, encore gorgés de brondieuseries et de traditions de leur coin d'origine, et, avec la même ardeur et la même obstination, comment ils refusaient un pareil droit à tous ceux qui arrivaient après eux. Christina avait raconté dans le détail la rencontre avec Fus. Elle avait expliqué en quoi il ne ressemblait pas aux autres de la bande. Plus calme, tout simplement plus gentil, galant avec les filles. Cela avait fait réagir le président. Elle avait dû confirmer « Oui, galant, monsieur le président. C'est bien de cela qu'il s'agit. » Frédéric avait des prévenances que les autres n'avaient pas. Il était beaucoup moins macho qu'eux. Elle avait d'ailleurs expliqué que Fus se faisait pas mal charrier et que certains le regardaient un peu comme une chachotte. Le jour où il s'était fait agresser, elle était avec lui. Ils n'étaient que tous les deux. Mais oui, on ne pouvait pas les manquer. Elle avait des tracts de marine plein les mains.
Les gars s'étaient approchés à 4 ou 5. Elle ne s'en souvenait plus. Il lui avait arraché le matos des mains. Fus avait fait un pas pour s'interposer et s'était pris la dégelée. Cela avait été vite. À peine avait-elle hurlé qu'ils avaient déjà disparu. Ils avaient peu parlé dans les semaines après, parce que Fus ne s'exprimait presque plus. À ce moment de l'exposé, Christina s'était tournée vers Fus. Elle s'était arrêtée quelques instants pour le regarder et lui sourire. Fus avait aussitôt plongé la tête. Puis elle avait continué à destination des jurés. Elle s'était employée à convaincre les autres du groupe qu'il fallait faire quelque chose, qu'ils devaient répliquer, aller les tabasser à leur tour. Elle en connaissait au moins un et savait où ils zonnaient, celui au visage grêlé. Celui qui allait mourir quelques semaines après sous les coups de Fus. Mais dans l'immédiat, le groupe s'était gentiment défilé. Ils s'en remettaient au gros bras de Marine, à Thionville, à qui ils en parleraient. En attendant, il était urgent de ne rien faire. Elle les avait engueulés, puis était venue pleurer chez nous. Elle avait dit à Fus que ces salauds pouvaient dormir sur leurs deux oreilles, que personne dans l'équipe n'était décidé à le venger. Fus avait juste dit « Laisse ». Elle pouvait jurer que cela avait été sa seule phrase de l'après-midi. « Laisse !» Et que donc elle ne comprenait pas comment Fus avait pu faire ça. Ce qui avait pu le décider. Que c'était la faute des autres. Que l'affaire aurait pu se régler entre mecs, comme ils savaient parfois le faire, et qu'on en serait resté à quelques vilains coups, groupe contre groupe. Mais rien de plus. Oui, elle en voulait à sa bande d'avoir laissé Fus se venger tout seul. Que c'était normal que ça ait dégénéré. Elle s'était fait de nouveau reprendre sur cette phrase. Mais l'idée était là. Tout le monde dans la salle avait bien compris. Je ne sais comment Gilou entrevoyait désormais sa vie. ce frère qu'il faudrait aller visiter régulièrement et qui ne lui laisserait aucune cesse. À quel moment, quand on rencontrait une fille, on lui avouait que son frère était en tôle pour des années et des années ? Qu'est-ce qu'on expliquait à la fille quand elle voulait en connaître la raison ? Voilà ce qui attendait Gilou. Une vie de merde qui n'en finirait pas de tourner autour d'un seul axe, le centre pénitentiaire du Frangin. Et s'il s'aventurait à l'oublier, à partir loin, à l'étranger peut-être, pour ne plus être de corvée de prison chaque mois, alors un foutu remords le prendrait à la gorge et ne le lâcherait pas. Je m'en sortais presque mieux dans un sens. Il me restait moins à vivre et j'en avais pris mon parti. J'avais accepté d'être un père indigne qui ne mettrait plus les pieds en prison et je me fichais de la réprobation du Jackie ou de la maman là-dessus. Quand les gendarmes étaient venus toquer à ma porte quelques semaines après, j'étais devant la télé et en voyant le gyrophare qui illuminait tout le quartier et qui ricochait sur les murs, j'avais tout de suite pensé qu'il s'était passé quelque chose à la prison. Que Fus s'était fait frapper et que cette fois, il ne s'en était pas sorti. Pendant une seconde, je n'avais pas su si j'en étais soulagée ou pas. Mais il n'était pas venu pour ça. Il m'annonçait que l'enquête se rouvrait. J'étais allée m'effondrer dans le canapé. Il y avait le tour à la télé, une échappée qui irait peut-être au bout. J'entendais la joie des commentateurs, j'entendais ce monde qui continuait de vivre. Mon fils était encore vivant et soudainement, sans que je sache pourquoi, j'en étais à nouveau heureux. D'un bonheur que je n'avais pas connu depuis des années. Un bonheur qui m'avait tenu toute la soirée. Je m'étais installée dans sa chambre, j'avais respiré ses draps et je m'étais endormie en pensant à lui, en priant pour qu'il dorme bien, qu'il entende un peu, comme moi, la rumeur de la nuit. Cette fois, le visage de Fus enfant s'était mêlé à celui du Fus prisonnier. C'était mon fils qui dormait sur ce mauvais lit, qui profitait de quelques heures de calme avant que les bruits d'écrou ne recommencent. C'était mon fils qui s'était doucement réconcilié.
Les visites en prison me vrillaient toujours autant la tête. J'avais beau en faire, je n'arrivais pas à m'y habituer. J'en faisais des cauchemars plusieurs jours avant. Mais bon, une fois dedans, ça allait à peu près. Je n'allais plus comme les premières fois l'envie insensée de me sauver, à peine sur place. J'arrivais à regarder un peu mon fus, voir s'il s'était rasé, s'il avait pris un peu soin de lui. Il portait les vêtements que je lui ai apportés les fois d'avant. Je pensais qu'il faisait attention. Je pense qu'il connaissait mon dégoût de tout ça, qu'il ne voulait pas en rajouter. Alors, quand je voyais propre, ça allait à peu près. J'oubliais que c'était un prisonnier. J'arrivais à faire un peu abstraction du reste. J'aimais bien y aller avec le Jackie car lui n'avait aucune appréhension. Il s'installait là-dedans comme s'il était au bar. Il était bien avec tout le monde. Il n'avait pas une once de honte. Le Jackie, lui, préférait qu'on y aille chacun notre tour. Ça fait plus de visites pour le gamin. Alors j'avais pris mon parti d'y aller seul. Les premiers mois avaient été pénibles pour moi, pour Fus aussi. Je le sentais absent. Je ne savais pas si c'était la suite de sa maladie ou s'il le shootait de médicaments. J'avais demandé à Gilou s'il ressentait la même chose, mais lui n'y prêtait pas attention. Quand il y parlait, il parlait, il faisait le show. Il ne laissait pas Fus en placer une. Ce n'était pas inutile. Avec toutes les histoires, les résumés de séries, la logorée de sketch qu'il lui racontait, Fus en avait pour la semaine. Mais quand tu lui racontes toutes tes conneries, ça le fait rire, que je lui ai demandé, il m'avait dit, pas trop sûr. Ouais, ça va, t'inquiète.
Cher pas, quand tu liras ces mots, je serai déjà en voyage. Vous avez tous besoin de repos. Il est inutile que vous vous épuisiez ainsi à ces inutiles trajets. Il est grand temps que je vous libère. Un livre bouleversant qui dit notre époque, celle des gens abandonnés et traversés aujourd'hui de pensées extrêmes, à lire de toute urgence.
La lecture de ce livre vous a été proposée par Armel et Jean.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les autres,